Bonsoir. Des violences commandes posées lundi 9 septembre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux combattants volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo allié à l'armée congolaise dans le territoire de Masisi. Ces affrontements qui ont commencé tôt le matin se sont déroulés précisément dans l'agglomération de Moueto et dans d'autres villages environnants du groupement de Bachali Kembe au Nord Kivu. Depuis le 1er septembre 2024, sort en effet des combats parfois sporadiques opposent les rebelles du M23 aux différents groupes armés, notamment dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, ainsi que dans les deux groupements de la chefferie des Bachali du territoire de Masisi. Pendant ce temps, plusieurs témoignages font état d'un renforcement des positions des rebelles en hommes et en armement dans ces zones, ce qui, selon certaines sources, met en péril le processus de paix de Luanda en Angola. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Participe au débat de ce soir Jacques Safari, député national élu du territoire de Masisi. Il est président du caucus des députés de la province du Nord Kivu. Il est également cadre de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Jacques Safari, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Baptiste Mundo Kasekwa est aussi avec nous dans ce studio. Il est député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu. Il est vice-président du parti politique SID, parti membre de la coalition Lamoukia. Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, Kelly. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Aussi avec nous dans cette émission, Rigan Miviri, avocat et chercheur à Boutéli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Rigan Miviri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans l'introduction, au Nord Kivu, les combats opposant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo ont repris dans le territoire des Masisi depuis 3 jours. Cette situation entraîne des nouvelles vagues de déplacés qui inquiètent plusieurs acteurs. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Bernardin Nyangui depuis Goma.
Bernardin Nyangui, bonsoir.
Bonsoir, Donat Madimba.
Vous nous avez annoncé la reprise des affrontements dans la province du Nord Kivu. En détail, comment se présente cette reprise d'affrontements?
Oui, à vrai dire, Donat, la situation est tendue ce mardi, notamment dans le village de Moueto, Kanyati, Kanzenze et Nyamitaba, dans le groupement de Bachali Kembe. Comme vous avez eu à suivre cela, c'est depuis dimanche 8 septembre que les combats ont repris dans ce village. Ces affrontements à armes lourdes et légères se sont même poursuivis jusque toute la journée de lundi 9 septembre entre les rebelles du 1-23 RDF et les résistants Wazalendo. Et en cause, selon certaines sources sécuritaires dans le territoire de Masisi, les combattants volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, comme on les appelle, se sont attaqués dimanche aux rebelles du 1-23 RDF qui renforçaient déjà depuis plusieurs jours leur position à Moueto, entre autres. Délogés par les VDP ce dimanche, donc avant-hier, les rebelles 1-23 sont revenus à la charge hier lundi, ce qui a exacerbé la panique dans la région.
Bernardin Nyangui, quelles conséquences alors en détail sur la population civile?
Nos sources ne livrent pas de bilan détaillé de ce combat, surtout concernant la population civile. Dans un communiqué posté sur son compte X, lu ce matin, le 1-23 accuse notamment les forces de la coalition du gouvernement congolais d'avoir lancé des attaques brutales dans les zones densément peuplées, selon leurs termes, de Nyamitaba et ses environs, sans plus. D'autres sources locales affirment pourtant que tous les 4 villages concernés par ce combat sont pour l'instant vidés de leur population qui ont, pour la plupart, pris la direction notamment des villages Kanga et Boussi.
Devant cette situation, que disent les autorités face à cette reprise des combats?
Jusqu'à présent, il n'y a aucune communication officielle de la part des autorités provinciales sur cette reprise des combats, entre autres dans cette partie du territoire de Massissi. Quand nous l'avons contacté ce mardi, le porte-parole de la 34e région militaire a affirmé tout simplement que l'armée congolaise continue d'observer le cessez-le-feu conclu le 30 juillet dernier à Luanda, en Angola, entre Kinshasa et Kigali. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko de Kinshasa dit condamner par ailleurs ces attaques des rebelles du M23 contre les VTP Ozalendo et qui, selon lui, violent le cessez-le-feu. Il faut préciser qu'à part ces événements de Mweto, depuis le début de ce mois de septembre, plusieurs attaques attribuées aux rebelles du M23 ont déjà été signalées, notamment autour de Kibirizi et Tongo, dans le territoire de Rutshuru et même dans le sud du territoire de Lubero.
Bernardin Nyangui, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci Dona Madimba et Bernardin Nyangui. Jacques Safari, je rappelle que vous êtes député national, élu du territoire de Massissi, président du caucus des députés de la province du Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Situation tendue, notamment dans les Massissi. Chez vous, reprise des combats depuis le dimanche 8 septembre entre les résistants Ouazalendo et le M23 RDF, malgré le cessez-le-feu conclu entre Kinshasa et Luanda, plutôt Kinshasa et Kigali, à Luanda. Quelle chance accorder à ce processus finalement?
Merci madame, je tiens d'abord à saluer mon collègue Kasekwa. C'est vrai, il y a trois jours, les troupes rwandaises qui soutiennent le M23 ont attaqué plusieurs villages dans le groupement de Bachali Kahembe, notamment à Mweto, Nyamitaba, Kalonge, et toutes ces attaques ont provoqué le déplacement massif de la population. Et il faut ajouter également que ces attaques ont causé également la mort, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées pendant ces attaques, notamment un notable qui est connu du milieu, qui s'appelle Mokassa Jean-Claude. Et nous pensons, en tant que députés nationaux, un notable du coin, nous pensons que le cessez-le-feu en question, c'est une mascarade, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment le gouvernement rwandais qui est en pourparlers avec le gouvernement congolais, ils se sont convenus à Luanda qu'ils doivent cesser les hostilités, mais entre-temps, le Rwanda renforce ses positions et attaque la population. Donc c'est une désolation pour nous, parce que nous sommes décis. On pensait que avec les négociations, les armes devaient s'éteindre à tous les niveaux, mais on constate qu'il y a mauvaise foi, tout simplement.
Alors, mascarade, c'est seul feu. Entre-temps, l'armée dit observer cet accord qui a été conclu à Luanda entre Kinshasa et Kigali. On parle justement du cessez-le-feu. Vous venez de le dire vous-même, le Rwanda est en train de renforcer ses hommes. Est-ce qu'on doit continuer du côté de Kinshasa? Kinshasa doit continuer à observer ce cessez-le-feu alors que Kigali est en train de le violer?
Je crois que c'est le mode opératoire du Rwanda depuis plus de 30 ans. Nous avons grandi dans ces milieux. Les villages, les grandes agglomérations de Mweto, de Nyamitaba, c'est chez moi, c'est dans mon groupement. Et donc je suis là. Et depuis 30 ans, le Rwanda attaque comme ça. Et chaque fois qu'il est en pourparlers avec le gouvernement, il renforce ses positions. En réalité, le Rwanda vise le chef lié du territoire de Massissi, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Mweto. Et donc, il considère que même s'ils sont en pourparlers, s'ils arrivaient à conquérir le chef-lieu du territoire, ça donne accès au territoire de Walikale. Et vous le savez, le territoire de Walikale a une grande société, BCA Mining. Et donc, ce n'est pas anodin des attaques qui sont organisées par les troupes rwandaises. C'est à dessein parce que le Rwanda convoite les matières premières, les ressources qui sont chez nous. Vous savez, la mine de Rubaya, c'est toujours dans les massifs, c'est exploité par le Rwanda. Et si le Rwanda continue à accentuer les attaques, c'est parce qu'il vise le chef de territoire de Masisi pour justement jeter sur la mine de Bissier dans le Walikale.
Alors vous, en tant que député national de son camp de l'Union sacrée de la nation, la question que beaucoup de Congolais se posent est celle de savoir pourquoi du côté congolais on respecte le cessez-le-feu alors que le Rwanda est en train de violer cet accord conclu. Est-ce qu'on doit continuer à observer?
Je crois que le Congo doit également continuer à se préparer parce que en fait c'est ça la technique de la guerre. Les négociations c'est également une technique de guerre. Lorsqu'on est en train de parler, on doit également renforcer les positions. Le Rwanda, le Congo, notre pays doit s'organiser et ne pas se prêter aux déclarations du Rwanda parce que notre pays risque d'être surpris. Le Rwanda a ses ambitions sur notre pays, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui essaie un peu de faire une médiation, mais il peut arriver que la médiation n'aboutisse pas. Donc, ça, nous ne devons pas nous contenter des déclarations de cesser les faits. Parce que c'est visible sur le terrain, les populations sont en train de souffrir. Quand vous arrivez à Goma, vous allez dans les cas de Boulengo, vous pouvez, la vie est intenable. Les enfants, les femmes enceintes, ils vivent à même le sol.
Et c'est à peine s'ils sont assistés.
Ah, absolument, justement, c'est dommage. Donc, moi aujourd'hui, ce que j'ai pu demander au gouvernement, c'est de parler avec les Rwandais, mais également de renforcer les positions. Si les Rwandais attaquent, on attaque également. Parce que nous
parler sommes avec les Rwandais, ils se parlent déjà à Luanda. Kinshasa et Kigali se parlent déjà à Luanda.
Ah oui,
quel genre de dialogue ou de rencontre il faut encore?
Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Mais le Rwanda, il va à Luanda, mais en même temps, ils avancent les positions. Par exemple, l'agglomération de Mweto a été attaquée hier, avant-hier, mais elle n'était pas entre les mains de M23. Donc, au fur et à mesure que nous perdons les grandes agglomérations, nous perdons en fait notre souveraineté sur les territoires.
Et donc, pendant que la RDC observe le M23, appuyé par le Rwanda, continue à conquérir des localités.
Ils ont toujours été comme ça, et c'est leur technique. Le gouvernement et notre armée doivent retenir ça. Le Rwanda, ce sont des maquisards depuis des années. Et donc, il faut travailler avec de cette façon-là. Le gouvernement doit aller en négociation, mais en sachant que le Rwanda est en train de renforcer. C'est connu, que ce soit toujours dans les groupements de Bwito. Le Rwanda renforce.
Aller en négociation avec le Rwanda, pas avec le M23.
Oui, parce que le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda, vous pouvez aller, ce sont des unités entières. La logistique, les véhicules, ce sont des véhicules rwandais, même des tennis. Je crois que le gouvernement a bien choisi. Le Rwanda doit s'assumer, et il sait s'assumer d'ailleurs, parce qu'il est en négociation avec la RDC.
Jean-Baptiste Omendo Kasekwa, député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu, vice-président du parti politique SID, parti membre de la coalition La Moukia. On revient encore une fois pour parler de ces combats entre le M23 et RDF contre les Wazalendo, les patriotes Wazalendo, la population, plusieurs villages sont dépouillés ou les populations ont quitté plusieurs villages. Ils ne savent plus quoi faire. Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à mettre fin à cette situation?
Merci, madame, et merci de la compassion que la direction de Radio Okapi témoigne vis-à-vis des populations abandonnées du Nord Kivu, tout comme les populations de l'Ituri, du Sud Kivu et de partout ailleurs. Ces populations du groupement de Bachali Kahembe qui sont en train de fuir. La fois dernière, je suis passé sur votre micro ici et j'ai décrivé le calvaire des populations ayant été chassées de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kashuga, de Kashuga pour Kikuku, Kikuku pour Kanyabayonga, de Kanyabayonga pour Butembo. Et maintenant là, ces populations-là sont pourchassées à Mweto, à Nyamitaba, et comme mon collègue Safari vient de le dire, le Rwanda vise à prendre le contrôle de Masisi Centre, Nyabiondo, Nyabiondo, tout le territoire de Walikale. Entre-temps, depuis le début de la semaine passée, les populations de Bunagana, de Kiwanja, nous ont alertés sur l'entrée de plusieurs camions pleins de militaires et de la logistique en provenance du Rwanda vers le Grand Nord, notamment à Kassé, à Matembe, au Raforce, la cible c'est Butembo.
Et donc chaque jour il y a des camions en provenance du Rwanda qui entrent en RDC.
Les populations alertent, les services de renseignement congolais sont informés. Et ce qui est révoltant, c'est cette attitude de cesser le feu. Et pour moi, comme je l'ai toujours dit, il y a une haute trahison dans les chefs de nos dirigeants. Pour deux points. La première raison, c'est cette logique de cesser le feu. Hypocrite. J'ai lu ce matin le communiqué du 25 mars 2024 signé à Luanda entre la RDC et le Rwanda. Au point 4 de ces communiqués, il est dit point de divergence. Il y a eu un point de divergence entre le Rwanda et la RDC. Et ce point de divergence, il est écrit que pour le Rwanda, la cessation des hostilités implique un cessez-le-feu supervisé entre les FARDC et les M23, accompagné d'un processus de désengagement des forces. En d'autres termes, pour le Rwanda, tant qu'il n'y aura pas un accord signé entre les M23 et Kinshasa, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessation d'hostilités. C'est ça l'entendement du Rwanda.
Ça, c'est votre interprétation.
Madame, point 4 du communiqué du 25 mars 2024, intitulé « Point de divergence ». Point 1, pour la RDC, désengagement signifie désengagement des forces implique retrait de RDF, du territoire de la RDC. Et le Rwanda disait « Nous ne sommes pas très d'accord ». Point B, de divergence, pour le Rwanda, la cessation des hostilités implique un cessez-le-feu supervisé entre les FARDC et les M23. Et donc, le Rwanda joue à notre naïveté. Les M23 dit qu'il n'est pas engagé par ces accords signés entre Kigali et Kinshasa parce que lui n'est pas partie prenante. Or, comme le dit mon collègue, les M23 n'existent pas sans les unités, les forces spéciales rwandaises. Et donc le Rwanda se moque de nous, et comme ils le disent, ils nous prennent pour des bichouchous. C'est ce qu'ils le disent. Nous sommes des idiots. Ils disent qu'il n'y a pas cessé le feu. Et par contre, les FARDC et les porte-parole de l'armée disent, nous respectons le cessé le feu. Le gouverneur militaire dit, nous respectons le cessé le feu. Si les M23 violent, tant pis, la communauté internationale va constater. Voilà une première raison qui me pousse à dire que les autorités de notre pays sont complices d'une cession d'une partie du territoire
Et l'article 85 de la Constitution appelle ça, 165 appelle ça une infraction de haute trahison. La deuxième raison, c'est que depuis ce communiqué du 25 mars 2024, le gouvernement a accepté la lecture, la grille de lecture du Rwanda à proposant ce qu'ils appellent un plan de neutralisation des FDLR. Ils avaient déjà signé le communiqué, la feuille de route de Rwanda du 6 juillet 2022, dans lequel disait que la principale cause de conflit entre le Rwanda et la RDC, c'est la présence des FDLR. Pourtant, Félix disait à la tribune des Nations Unies en 2022 septembre que où étaient ces FDLR, quel territoire ces FDLR avaient-ils conquis au Rwanda. En fait, depuis 30 ans, les FDLR n'ont jamais pris un seul groupement du Rwanda. Par contre, aujourd'hui, l'M23 fabriqué par le Rwanda occupe Rutshuru, occupe une partie de Nyiragongo, occupe une partie de Lubero. Voici qu'ils sont en train de vouloir conquérir Tomasisi pour Walikale. Et donc, en nous entraînant sur ce chemin-là, qui n'est qu'un prétexte, qui n'est qu'un alibi, les dirigeants congolais, en fait, tout en sachant que ces problèmes des FDLR, c'est une fable de La Fontaine chantée par le Rwanda depuis 1996 jusqu'à ce jour, que c'est un faux problème. Ils ont choisi simplement de plaire à certains partenaires du Rwanda, au motif que s'ils acceptent tout ce que ces partenaires demandent, alors ces partenaires pourront desserrer les taux sur le Rwanda. Il s'agit principalement des États-Unis, de la Grande-Bretagne.
Alors, vous dites que depuis 1996, le motif avancé par le Rwanda, c'est la présence des FDLR en RDC. Vous estimez que c'est faux, c'est un faux problème. Mais c'est, qu'est-ce qui peut pousser le Rwanda à chaque fois à attaquer la RDC?
Une bonne question, madame. À propos de la question des FDLR, je faisais la lecture ce matin. Le 30 juin 2002, à Pretoria, la RDC et le Rwanda ont signé un protocole d'accord pour le retrait des troupes rwandaises conditionnées par la neutralisation des FDLR. Le 9 novembre 2007, sous l'initiative des États-Unis, on a signé le fameux communiqué de Nairobi et autour de la neutralisation des FDLR. En 2008, il y a eu les fameuses opérations où Umoja Wetu, l'armée rwandaise s'est déployée au Nord Kivu contre les FDLR. Avant ça, même en 97, le chef d'état-major du Rwanda, James Kabarebe, a dirigé l'armée congolaise pendant 14 mois, au motif qu'il fallait que le Rwanda se débarrasse des FDLR. Pendant 7 ans, de 98 à 2003, le Rwanda a contrôlé toute la partie est de notre pays, sous le RCD, au motif qu'il fallait neutraliser les FDLR. Comment aujourd'hui nous pouvons à nouveau revenir là pour dire que ce sont ces FDLR-là qui constituent la principale cause? Et le ministre des Affaires étrangères va à Luanda, il signe et dit nous allons présenter ce plan et à contrepartie de l'effectivité de ce plan, vous allez commencer le désengagement des forces. On nous amène sur une fausse piste. On veut nous amener à nouveau à signer des accords identiques aux opérations conjointes au Umoja Wetu de 2009. Il ne sera pas surprenant que dans les jours qui viennent, Kinshasa autorise secrètement que des unités rwandaises opèrent sur notre territoire. Kinshasa l'avait déjà fait en 2019. En septembre 2019, le fameux Mouta Tchoumouroua a été tué dans le Bwito sous l'autorisation de Kinshasa par l'armée rwandaise. Donc, on veut nous amener sur ce chemin-là. Et non seulement ça, en 2009, le 23 mars, on a autorisé aux ex-CNTP d'occuper toute la partie est de Fizi jusqu'à Ituri, sans jamais être permuté ailleurs, de 2009 à 2012, pour permettre à ces unités-là de neutraliser les FDLR. Mais pourquoi 30 ans durant, nous allons continuer à payer le prix? Est-ce que c'est parce que Kinshasa est trop loin? Ils ne ressentent pas les conséquences que les populations de Masisi, de Kiwanja, de Nyamirima, ces populations de Lubero, de Walikale, qui paye le prix de toutes ces opérations de dommages collatéraux. Nous sommes à la fois victimes de la présence de tous ces réfugiés rwandais et à la fois de la présence du M23, de la présence de l'armée rwandaise. Et de l'autre côté, pour non-assistance à population en danger, l'armée congolaise dit nous sommes à cesser le feu. Et comme disais-je, le Rwanda ignore ce cessez-le-feu-là. Il renforce ses positions. Et le moment venu, il va déclencher les hostilités et le commandement FARDC va nous présenter la célèbre stratégie de repli stratégique à longue portée, qui n'est qu'une stratégie de fuite, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc, à la lire où vont les choses, les populations congolaises, et particulièrement les élites du Nord Kivu, nous devons nous lever, nous dire, après Rutshuru, après Masisi, après Nyiragongo, après Lubero, et bientôt à Likale, tout ce qui nous reste du Nord Kivu, on nous confine dans la petite ville de Goma, qui est devenue invivable, nuit et jour, c'est un calvaire. On nous confine d'Abutembo, on nous confine d'Abeni, et tout le reste du territoire est sous les contrôles des forces ennemies jusqu'à Zaka.
Rigan Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, j'ai consigle. Alors, maître Rigan Miviri, qu'est-ce qui peut expliquer ces rébellions à répétition en RDC?
Déjà, une des questions qui est importante à se poser, c'est la qui s'ensuit autour de la table, parce que on a parlé de négociations, on a parlé de des affrontements sur le terrain. Essentiellement, autour de la table, c'est plutôt le Rwanda et la RDC. Mais là, ce qui s'entraîne de se battre sur le terrain, c'est l'M23, AFC et contre le Wazalendo. Et donc, le Rwanda et la RDC peuvent, dans une certaine mesure, dire que voilà, et ils sont en train de respecter leurs engagements. Mais la réalité sur le terrain est le tout autre. C'est tout le dilemme, en fait, de ces discussions. Qui doit être autour de la table? La RDC dit qu'elle ne peut discuter avec le Rwanda, et elle donne ses raisons. Mais sur le terrain, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi d'autres acteurs. Et même quand il s'agirait de RDF sur le terrain, ils diront que ce n'est pas eux que ce sont les M23. C'est tout le dilemme de cette discussion et des acteurs autour de ce conflit. Mais tout ça, ce n'est que de la politique, tout ça, ce n'est que de mots que chacun des acteurs met en avant. Mais je pense que l'essentiel, c'est ce qui a été dit tantôt, c'est que, en fait, cette réalité, cette confusion entretenue, a un visage. Ce sont les milliers de déplacés qui sont en train de souffrir, c'est des milliers de populations de Goma qui ont difficile à accéder à des denrées de première nécessité parce que toutes les routes sont bloquées. Et donc, ça devait être une raison fondamentale pour que les décideurs puissent trouver des solutions définitives à cette question. Et je ne pense pas qu'il s'agit de choisir entre des solutions diplomatiques et militaires. De toute façon, depuis le premier jour de conflit ici, il y a toujours eu des pourparlers, il y a toujours eu de combats. On a comme l'impression que c'est le mode opératoire depuis toujours. Mais la question est de se demander pourquoi ça persiste et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'enfin on puisse trouver une solution définitive. Luanda semblait être sur cette marche-là, mais malheureusement, on voit exactement que voilà, ce qui est signé en haut n'a pas forcément des répercussions sur le terrain, le conflit continue.
Alors, Rigan Miviri, j'ai posé une question sur ces rébellions à répétition en RDC. On avait le RCD, le CNDP, M23, aujourd'hui AFC. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout cela? Est-ce que ce sont toutes ces rébellions ont les mêmes revendications?
Il y a beaucoup de raisons pour parler de ces rébellions, mais une des raisons fondamentales et qui me semble d'ailleurs quelque chose sur lequel tous les acteurs peuvent travailler, c'est l'inefficacité de l'État congolais. Donc, tous les États peuvent être menacés, mais ce n'est pas tous les États qui sont menacés qui arrivent à être, martyrisés comme le Congo, comme l'est le Congo. Donc, c'est une chose d'être menacé, d'avoir des rébellions, mais l'État est censé, par nature, avoir le moyen de se défendre de ces rébellions-là. Donc, tant qu'il n'y aura pas un vrai processus de paix en RDC, mais aussi un vrai processus de construction d'un État, au vrai sens du terme, il y aura toujours de rébellions. Bien sûr, il y a des revendications, il y a parfois aussi des prétextes, mais tout ça, c'est, pour moi, il me semble que ce n'est pas très important que construire un État. Parce que même quand on a un État, même les revendications peuvent être canalisées au travers de moyens légaux. Par exemple, s'il y a un conflit entre des communautés ou bien entre des individus, ils vont devant la justice. La justice est censée être impartiale devant tout le monde. Si c'est, entre des communautés, il y a l'histoire, il y a les lois qui vont faire en sorte qu'on va trouver intérêt d'attente pour trouver des solutions. Mais si l'État lui-même est déjà affaibli dans l'essentiel de ses compétences comme la justice, comme la police, comme l'armée, comme les services publics, genre l'éducation. Ça sera difficile, en fait, de trouver des solutions à toutes ces revendications-là. C'est comme si on demandait à un État qui lui-même a difficile à exister par lui-même, qu'il puisse résoudre de problèmes des citoyens de chaque jour. Donc, je pense que le plus grand problème, c'est l'État. Parfois, on passe par des élections, on fait semblant d'avoir des institutions, mais sur le terrain, on parlait de Masisi tantôt, quand vous arrivez à Masisi, l'État a toujours été un prétexte. Même quand c'est un rebelle qui est là, il dit mettre des taxes au nom de l'État, en fait. Mais l'État, c'est un prétexte pour assouvir les ambitions d'un individu qui va en fait dilapider cet argent-là qu'il va récolter au nom de l'État, par exemple. Donc, je pense que le plus grand problème, c'est qu'on n'a pas su, malheureusement, plus de 6 décennies après l'indépendance, on n'a pas su ériger un vrai État qui est capable autant de protéger ses citoyens, mais autant aussi de se défendre lui-même et de défendre son territoire.
Alors, vous allez rester en ligne, Maître Rigan Miviri. On va ouvrir notre standard pour écouter ces auditeurs qui nous appellent, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au sujet abordé ce soir dans le magazine Dialogue entre Congolais. En passant, je salue tous les internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de Radio Capi. Je rappelle que cette émission passe en direct sur cette plateforme, mais aussi sur YouTube et sur le compte X de Radio Capi. On va se rendre à Ubuntu, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
J'entends depuis le territoire d'Ubuntu, dans la province de la Tchopo. Nous encourageons les combattants volontaires du Wazalendo pour la défense de leur patrie jusqu'au sacrifice suprême. Cependant, nous craignons que ces combats ne réduisent à néant tous les efforts de négociation de l'Ubuntu entre les gouvernements congolais et les Lyons, surtout que sur les lignes de front, l'armée loyaliste a manifesté ses limites. La guerre dans la politique avec effusion de sang, nous pensons que le peuple congolais en a lieu maintenant d'envisager, même par la négociation.
Maître Miviri.
Je comprends le point de vue de l'auditeur. On a comme l'impression que les gens sont obligés de se positionner pour des méthodes diplomatiques ou pour la poursuite des hostilités. Mais pour moi, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais quand les forces en présence s'accordent pour un cessez-le-feu, le minimum c'est de le respecter pour donner un environnement favorable à la discussion. Mais bien sûr, même pour aller discuter, il faut être dans une bonne position pour faire avancer ses prétentions. Et comme on le sait, jusqu'à dernièrement, le Congo n'était pas dans de bonnes conditions sur le terrain pour le faire. Mais cela, qu'à cela ne tienne, on voit qu'il y a des négociations en cours. Il serait important que ces négociations-là, pour parler en tout cas direct entre la RDC et le Rwanda, puissent se poursuivre et qu'on voie à quoi ces pourparlers aboutissent. Parce qu'en fait, bien sûr, il y a une question d'urgence, notamment pour la crise humanitaire que les gens sont en train de vivre, mais il ne faudrait pas que ça soit à un prix vil. Parce que on sait tous que si ce sont de mauvais accords, ça va tout simplement ramener le conflit à plus tard. Ça ne va pas résoudre le conflit, ça va juste le ramener à plus tard, comme ça a été le cas en 2013. Voilà. Le pourparler de 2013 avec le Rwanda ont tout simplement mis le germe d'un conflit prochain. Et ce conflit-là, on est en train de le voir. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore de pourparler aujourd'hui qui nous prépare à un autre conflit, que ce soit un conflit entre la RDC et le Rwanda, encore une fois, ou bien la RDC contre une nouvelle imagination ou une nouvelle image du M23, ou encore, et peut-être, la RDC contre les autres groupes armés qui aujourd'hui sont plutôt des alliés des forces armées congolaises. Donc, je pense qu'il faut que si c'est une paix, que ce soit une paix définitive, que ça puisse prendre en compte toutes les dimensions, tous les acteurs sous l'État.
Après Ubuntu, on va revenir ici à Kinshasa pour écouter cet autre auditeur qui appelle.
C'est Yves Laurent Mon Kinshasa. La paix et la sécurité rentrent dans les attributions régaliennes de tout État responsable et puissant. Si l'État congolais est conscient de cette situation, nous ne devrions pas vivre cette insécurité interminable à l'est du pays. Le processus de paix de Luanda ne résoudra rien, mais il faut imposer la force à l'ennemi et ces derniers doivent se soumettre à nous. Il faut renforcer nos services de renseignement, il faut renforcer notre armée en logistique et en moyens financiers. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle l'usage à la force et la négociation. Si le dernier fait défaut, le premier doit être utilisé. La RDC doit s'assumer. La RDC doit prouver à la face du monde qu'elle est capable de juguler cette situation sécuritaire de l'Est. Assumons notre grandeur, comme stipule la Constitution de la RDC. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
Jacques Moussafiri, réaction.
Moi, je suis d'accord avec l'auditeur. En fait, si la communauté internationale a demandé que les négociations se passent entre le Rwanda et la RDC, c'est parce qu'il y a eu des vérifications que les troupes rwandaises sont au Congo. Et donc, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui doit retirer ses troupes.
Mais le Rwanda n'a jamais admis que ses troupes étaient en RDC.
Le Rwanda n'a jamais admis, mais ils sont là. Il y a des mécanismes de vérification. Ils ont constaté qu'il y a des troupes rwandaises. Où est-ce que un groupe armé comme le M23 peut avoir des batteries antimissiles? C'est livré par le Rwanda. Madame, il y a beaucoup des unités, c'est visible. Et les Nations Unies le savent, il y a des rapports. En fait, le Congo doit renforcer justement son système de défense. Donc nous devons
Moi, je suis d'accord qu'on continue à le pourparler, mais nous ne devons pas nous fier à ce pourparler-là. Nous devons renforcer notre système de défense. Nous devons doter de nos forces armées des capacités nécessaires pour défendre la République. Aujourd'hui, les Ouazalènes nous sont là. Si le gouvernement dit qu'il est en cessez les faits, mais les Ouazalènes ne peuvent pas abandonner leur terre. Ce sont des enfants, ils sont en train de défendre leur village. Et les Rwandais doivent les connaître et les savoir. Nous avons suivi les Nations Unies imposer des sanctions. Mais vous allez imposer des sanctions à quelqu'un qui défasse sa maison. C'est anormal, c'est irréfléchi. Et donc moi je crois que l'auditeur a raison, nous devons renforcer notre système de défense. Même si nous sommes en négociation avec le Rwanda, mais nous devons savoir que le Rwanda est en train d'aller en négociation, mais il avance dans les positions.
Donc la RDC doit aller en négociation tout en ayant un œil sur le terrain, attaqué lorsque les troupes rwandaises s'introduisent sur le territoire.
Absolument, parce qu'en fait, il y a des vies qui sont en train des personnes qui sont en train de mourir. Le collègue l'a dit, Goma est asphyxié. La population de Goma s'est dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? En fait, le gouvernement, il est fort. Quelle que soit la situation que nous avons, le gouvernement est fort parce qu'il est avec le peuple.
Vous êtes député national, vous reprenez la session le 15 septembre. Je sais que c'est une session budgétaire, mais est-ce que cette question sera déposée sous la table du bureau?
Absolument, parce qu'il est à Goma, madame. Il y a une semaine, on a enterré 200 morts qui proviennent des camps de déplacés autour de Goma. C'est horrible, madame. Des enfants meurent chaque jour de faim, de maladies. Vous avez suivi, vous êtes des Okapi, vous avez suivi, il y a quelques mois, les M23 a lancé des bombes dans les camps de Mugunga. Je crois que c'est ce qui a amené même la communauté internationale à exiger au Rwanda d'aller en négociation avec la RDC. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Soit on captive, soit on s'organise justement pour défendre le territoire.
Le M23 demande des négociations directes avec le gouvernement congolais.
Le M23 n'existe pas. Mais vous pouvez, parce qu'il y a des rapports. Il y a des rapports qui montrent que les troupes rwandaises traversent la frontière à Kibumba, à Rutshuru. Les Nations Unies, ils ont documenté tout ça. Et donc aujourd'hui, le M23, oui, M23, il est derrière le Rwanda. Si le Rwanda est en train de négocier avec le Congo, il va présenter les prétentions du M23.
Mais le Rwanda dit ne pas parler au nom du M23.
Non, c'est parce qu'on
est devant un dilemme. C'est comme l'a dit Rigel Miviri, qui sont autour de la table.
Justement, c'est parce que nous sommes avec la communauté internationale. Madame, à ça qu'il y a les forces de SADC. Les forces de SADC, ils ont tout le matériel pour savoir qui est devant lui, devant elle. Donc moi je crois qu'il faut être réaliste. La communauté internationale, si elle veut aider le gouvernement congolais, elle doit imposer le Rwanda. Parce que c'est imposé. On doit imposer la paix. C'est pas pour rien que nous sommes en alliance avec d'autres pays. Ces pays doivent nous aider pour qu'on retrouve la paix.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kisangani.
C'est Yves Laurent Mon Kinshasa. La paix et la sécurité. J'appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. C'est M. Blaise Atougou. Focalisons nos préoccupations au processus de Luanda. Nous risquerons de perdre les localités en localité. Et ça deviendra difficile pour notre gouvernement. Il y a bicéphalisme dans cette guerre. Est-ce qu'on peut discuter avec l'allié de M23 qui est le Rwanda ou bien le M23 lui-même?
La brève réaction, Jean-Baptiste.
Moi, je suis d'avis, Madame Kelly, qu'il faut cesser
avec une diplomatie d'hypocrisie. Il faut cesser, abandonner ce processus de Luanda. Et l'auditeur pose la question, faut-il continuer avec ce processus-là? Et vous avez posé à maintes reprises la question. En fait, le Rwanda dit, dans le point de divergence que j'ai lu là, qu'il est prêt à se désengager, à revoir, les termes utilisés, il est prêt à revoir le dispositif de défense et de sécurité qu'il a mis en place contre la menace. Si et seulement si Kinshasa signe un accord de cessez-le-feu avec le M23. Autrement dit, le Rwanda sait que sans la présence des forces spéciales rwandaises, le M23 n'existe pas. Mais pour créer le M23, il faut obtenir de Kinshasa la signature d'un accord de cessez-le-feu et peu à l'instar de l'accord de Lusaka. Et désormais, la RDC aura signé le cessez-le-feu avec une fiction. Et toutes les fois qu'on va dire que cet accord est violé, eh bien, tous les partenaires de la communauté internationale vont venir faire pression. On va négocier et donner des avantages à des fantoches du Rwanda. Et ça, c'est inacceptable. De mon point de vue, comme a dit l'analyste qui est avec nous, il faut prendre des dispositions qui nous permettent de changer le rapport de force. Le rapport de force au plan diplomatique, j'attends mon collègue de l'Union Sacrée qui dit la communauté internationale doit nous aider. Non, collègue, vous pouvez organiser 8 journées de deuil national. Les partenaires du Rwanda ne lâcheront jamais le Rwanda. Le Rwanda a bombardé les camps de réfugiés à 96. Tu es témoin. Aucun pays n'a sanctionné le Rwanda. Le Rwanda a perpétré le massacre de Tingi Tingi. Ni l'Union Européenne, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, personne n'a levé son petit doigt. Tous ces déplacés qui meurent dans le camp, ce n'est pas aujourd'hui que les Américains et autres vont verser la moindre goutte de larmes. Tous ces gens qui sont massacrés à Beni, non.
Donc il ne faut pas compter sur les partenaires de la RDC ou les amis de la RDC.
Il faut plutôt aujourd'hui, il faut un président courageux qui se dit pourquoi 30 ans dira que le Rwanda nous tire au Congo. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union Européenne soutiennent le Rwanda. Est-ce que nous pouvons évaluer nos relations diplomatiques avec ces États? Et si nous trouvons que leurs relations ne sont pas sincères avec nous, les évitants sont là, eh bien, nous rompons d'abord les relations diplomatiques avec ces pays-là. Les États-Unis, ce n'est pas le ciel pour dire que sans les États-Unis, la RDC ne peut pas vivre. Mais nous devons leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec les stratégies qui consistent à appuyer le Rwanda en tout. Les rapports sont suffisamment clairs. Et de l'autre côté, les dirigeants congolais sont naïfs pour dire faisons plaisir aux dirigeants américains de la Grande-Bretagne, allons capituler à Luanda parce que c'est cessez-le-feu. La trêve humanitaire a été négociée, dit-on, sous l'égide des États-Unis. Les communiqués de Nairobi de 2007, comme je le disais, c'était sous le parrainage des États-Unis. Et lorsque le Rwanda viole tout ce cessez-le-feu-là, aucun pays, qui a même des évidences, ne prend l'audace de les sanctionner.
Mais on a peut-être pas sanctionné, mais condamné. On a vu des grandes puissances condamner le Rwanda, exiger même le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais.
Madame, à 2013, il y a quand même eu des sanctions économiques, des sanctions financières contre le Rwanda. Et avec la bravoure des généraux Bauma et Mamadou et la mobilisation populaire, on a vu le Rwanda se retirer. Aujourd'hui, avez-vous attendu un seul pays qui a sanctionné le Rwanda? Ok, bien au contraire, l'Union Européenne signe des accords. Donc, il faut avoir le courage de remettre en question nos rapports avec tous ces prétendus partenaires qui financent le Rwanda, qui soutiennent le Rwanda, qui s'interdisent de la moindre sanction. Même lorsque on a documenté autour du massacre de Kishishe, aucun pays
Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Jean-Baptiste Katsekwa, vous allez conclure. Il y a Rigal Miviri qui parle d'un vrai processus de paix. Tout ce qu'on entreprend là, c'est de la comédie, c'est pas vrai, c'est de la mascarade.
C'est de la mascarade, c'est la trahison, c'est la haute trahison. Et pour nous, à l'ECID, nous sommes en train d'appeler à une mobilisation générale, à ce que nous appelons la cohésion nationale. Parce qu'il y a péril. Avec la cible de Massissi, de Nyabiono, de Walikale, la cible de Boutembo, si l'armée reste dans cette position de cesser le feu et procède à ce qu'elle appelle le repli stratégique, le Rwanda prend ces entités-là, eh bien, le rapport sur le terrain sera identique à la situation dans laquelle se trouvait le RCD à 98. On va obliger tout l'État congolais à aller à nouveau vers un processus sans City 2, qui signifie qu'on va remettre en cause l'ordre constitutionnel à place. On va nous, parmi les conséquences, à part le drame humanitaire, si par exemple 2024, 2025, la guerre n'est pas terminée et qu'il faille lancer l'opération d'arrondissement des électeurs pour 2028, toutes les populations dans ce territoire occupé ne seront pas concernées par les élections. Félix va tirer prétexte pour dire on ne peut pas abandonner tout ce territoire-là, par conséquent lui aussi se frotte les mains pour un glissement. Donc, que ce soit au plan politique, au plan de l'intégrité territoriale de notre pays, au plan humanitaire, il y a urgence que tous les Congolais se mettent ensemble pour, un, refuser le schéma de capitulation de, sous les pseudonymes de ces accords vers lesquels on veut nous mener par le schéma de Luanda. Nous ne sommes pas d'accord.
Merci.
Mais sous la cohésion nationale, nous pouvons nous mobiliser, faire un front diplomatique commun, amener tous les partenaires à dire nous changeons les fusils d'épaule, nous prenons des sanctions, mais également nous corrigeons toutes les hautes trahisons commises. L'armée est devenue une mafia.
Merci.
La guerre est devenue un business.
Mouindo,
on ne peut pas laisser des dirigeants corrompus continuer à s'enrichir sur le sang des populations du Kivu.
Merci beaucoup. Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, Jacques Consigle, votre conclusion, pensez-vous que Kinshasa sera en mesure de trouver une solution définitive à cette crise de l'Est?
Je l'espère en tout cas, mais malheureusement les évidences sur le terrain nous amènent à être plutôt pessimistes, mais je l'espère et j'espère que ça ne va pas se limiter juste à trouver des solutions à cette crise, mais plus globalement à construire un État qui peut prévenir d'autres crises à nous atteindre.
Jacques Safiri, député national, vous êtes élu de Massissi, vous êtes également cadre de l'Union sacrée de la Nation, président du caucus des députés de la province du Nord Kivu. Votre mot de la fin, vos propositions pour soulager cette population qui souffre, qui doit courir tous les jours, qui doit fuir les localités pour se réfugier dans des camps.
Oui, je ne suis pas d'accord avec les collègues Kasekwa. Nous, les partenaires, nous vivons dans un monde où il y a d'autres États. Nous ne pouvons pas nous défaire des partenaires. Ce sont des partenaires, mais nous devons choisir nos partenaires. Et donc, moi, je crois que je continue à croire que nous pouvons avoir la paix, mais c'est le gouvernement qui doit beaucoup travailler. Parce que nous devons réformer notre armée, nous devons renforcer notre système de défense, pour permettre justement à notre population de vivre en quiétude. À Goma, à Boutembo, à Beni, la population n'attaquait l'armée. Même partout, même dans les territoires occupés par les troupes rwandaises, la population attend l'armée. Ce qui fait que d'ailleurs, la population fuit toujours pour aller dans des camps de déplacés au lieu de rester là où
les M23 déjà occupés.
Merci à ces internautes qui ont été nombreux, qui sont nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nicar Banza, depuis l'Ikasi dans la province du Haut-Katanga, les dialogues entre la RDC et le Rwanda est un gâchis en temps, en énergie et en finance, car chacun campe sur sa position en accusant l'autre. Retenons que si nous refusons de dialoguer avec le M23FC, au moins réduisons sensiblement les frustrations internes en dialoguant sincèrement, en toute franchise avec la classe politique autour de la situation sécuritaire dans notre pays. Merci à Sagesse qui nous suit depuis Goma, au Nord Kivu, à Valérien Kisembe qui nous suit depuis Kinshasa, ingénieur Joseph Ngoï depuis Burundi, depuis Burundi, au Bujumbura. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Dona Madimba, Alain Goy, Hervé Vauca, Jonathan Fonani et Clément Chimanga. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.